L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière. On connaît tous la réputation de l'étoile Dodge Chrysler de Jonquière. Une équipe de gagnants. Et encore cette année, l'étoile est fière d'être partenaire des Marquis de Jonquière. La qualité et le service dont la réputation n'est plus à faire. Une équipe de vente chevronnée qui prend le temps de servir autant pour la vente que le service après-vente. Une expérience de plus de 30 ans pour nos travailleurs, des vrais passionnés. La gamme complète des autos camions, Dodge, Ram, Jeep, hybride, mini-fourgonnette, VUS, née, la cour est pleine. L'étoile Dodge Jonquière sur le boulevard du Royaume, fier d'être associé au Marquis de Jonquière. L'étoile Dodge
Chrysler. Le rendez-vous des amateurs de sport. Avec Michel Tifot et Dominique Bolduc. Bienvenue dans le vestiaire. Dans le
vestiaire. Eh ben, on est rendu au mois de novembre. Pas drôle, hein? Noël approche déjà. Dominique Bolduc, bonjour.
Salut, Michel.
Fait beau, par exemple, dehors. Là. Ouais. Pas de vent, pas de neige. La cochonnerie s'en vient en soir, demain.
Ouais, mais là, la pluie s'en vient et les mercures qui vont partir en hausse. Là, on parle de 11 degrés pour mardi et mercredi. Ça a l'air que ça pourrait monter en haut de 15 dans la nuit de mardi à mercredi, mais ça, ce sera sous la pluie.
Bon, pas de neige pour tout de suite.
Non.
Les Marquis! Ça a été dur en fin de semaine, mais là, il manque des joueurs pas mal.
Oui, bien, effectivement.
Quel est le bilan de la situation, Dominique?
Plusieurs soldats qui sont tombés au combat au cours des derniers matchs. Et c'est le cas quand même de gros noms. Là. Le capitaine Alexandre Picard va rater, on dit absence indéterminée, devra rencontrer les médecins cette semaine. Donc, on ne parle pas d'un retour pour l'instant. Même chose pour Philippe Paradis, qui sera absent pour une durée indéterminée, rencontre les médecins cette semaine. Pour ce qui est d'Alexandre Tremblay, on parlait d'un retour la semaine, en fait cette semaine, mais on parle encore là, une à deux semaines d'absence pour le vétéran de 45 ans. Alors, tu sais, c'est quand même un trio complet là, qui te manque dans ton top 6 pour bien performer. Alors, Picard, Paradis et Tremblay ne seront pas là lors du prochain week-end. C'est quand même deux matchs importants.
Vite, là, on joue en fin de semaine.
Laval qui est au Palais des Sports. Match à Sorel samedi après-midi. Il va falloir se serrer les coudes parce que les Marquis sont capables de marquer des buts, mais sont capables d'en accorder aussi. Donc, il va falloir travailler plus serré si on veut espérer aller retrouver le sentier de la victoire. Puis là, regarde, c'est tellement serré. Tu perds contre Saint-Hyacinthe qui te rejoint au classement. Laval vient d'en gagner trois en ligne. Les trois équipes sont 4-4 en quatrième, cinquième, sixième place.
Hein?
C'est très serré.
Le Canadien, on va en parler tantôt avec Tom Lapointe. Ah, ben, ouais, que ça va être long cette année.
Puis, bon, il y a eu entraînement intensif la semaine dernière, entraînement punitif, résultat.
Oui, pas assez fort.
Pas eu grand résultat.
Non.
Pas assez fort. Écoute.
Là, c'est-tu le coach qui est pas assez bon?
Est-ce que le message passe encore?
C'est des questions qu'on va poser à Tom Lapointe tantôt. Au football, ce soir, les Chiefs, hein, ben, c'est la seule équipe qui n'a pas perdu au football de la NFL. Contre les Box. C'est pas dans le sac, ça, contre les Box. Ils n'ont pas de mauvaise équipe, Tampa Bay. Alors, ce soir, c'est la joute dans la NFL. Je reviens au hockey de la Ligue nationale. Il y a les Oilers qui se sont replacés un petit peu. Draisaitl, il marche, traîne en fer.
Ouais, Draisaitl, il n'a pas le choix si on veut gagner, parce que McDavid n'est pas là pour l'instant. On parle peut-être encore d'une absence d'une semaine. Pourrait revenir peut-être la semaine prochaine. Un match contre les Devils ce soir, ce sera quand même intéressant. Les Kings contre les Predators. Predators devront se mettre à gagner. T'as payé cher pour avoir Stamkos et Marchessault, tu gagnes pas. Va devoir se mettre en marche là-dessus.
Les Saguenayens, ça va bien, ça va mieux.
Écoute, 6 victoires en ligne. On avait des points d'interrogation, mais avec l'arrivée du vétéran à l'arrivée,
il est bon, hein, il fait bien
à
ça.
La Vallée, pardon.
La Vallée, oui.
Qui va bien, écoute. Il fonctionne un point par match, même en l'absence de Massé et de Godette. L'équipe performe bien. Oui, on fait du surtemps, mais c'est pas grave. T'sais. Vermette fonctionne bien. Gagnon fonctionne bien. Usereau, ton retour, ça va vraiment bien.
Gonaïev s'est remis à marcher.
Oui, absolument, absolument. Donc, non, c'est positif de ce côté-là. Là. Pricourt fait le travail. Hernandez aussi. Hernandez a eu peut-être une première sortie difficile, mais depuis ce temps-là, écoute, il est à 2-0-2. Il n'a pas perdu en temps réglementaire. Les cinq n'ont perdu que trois fois en temps réglementaire en 17 rencontres depuis le début de la saison. Puis actuellement, ils sont deuxièmes dans leur conférence, 4 points derrière Moncton. Évidemment, il y a Rimouski qui est derrière, mais avec un match en main. Mais pour l'instant, là, ils sont bien positionnés, les cinq.
Dominique et moi, on est collègues depuis une couple d'années à la radio dans le vestiaire. Mais depuis un an et demi, deux ans, on est collègues aussi dans le journal Le Réveil. Ouais. Une semaine, c'est Dominique qui écrit, l'autre semaine, c'est moi. Puis, je voulais revenir à la dernière chronique de la semaine dernière où, en fouillant dans le livre de l'historienne Russell Bouchard, mm-hmm. j'ai trouvé quelque chose d'intéressant parce qu'à la fin du livre de Russell Bouchard, il y a du sport.
Oui.
Il y a de la boxe, puis j'ai trouvé quelque chose sur les hommes forts. Entre autres, un dénommé Ben Côté. Le nom de Ben Côté me disait quelque chose parce que quand j'ai commencé à la radio, lui, sa carrière se terminait. Puis j'avais entendu parler de ce gars-là qui était surnommé l'homme fort, l'homme le plus fort du monde.
Oui, c'est apparemment que c'était assez impressionnant.
Le nom de Dan Walker, t'as dit quelque chose?
Oui.
Bon, Dan Walker, d'abord, il a été l'un des artisans du départ des Saguenay-Chicoutimi.
Oui.
Je sais pas si tu savais.
Oui, absolument.
C'était un promoteur de lutte.
Oui,
un
lutteur, c'est ça.
Mais un promoteur renommé, là. Lui, des galas de lutte, là, les Rougeaux. Puis Maurice Vachon, là, lui, là, il toutes les fins de semaine au Palais des Sports, au Centre Vézina, Dan Walker organisait des galas de lutte. C'est un promoteur, c'est un organisateur hors pair, Dan Walker. Et dans le livre de Russell Aurore Bouchard, ce que j'ai appris, puis je l'ai ramené dans le journal Le Réveil avec des photos, on apprend qu'en 1961, Dan Walker organise un concours d'hommes forts entre Ben Côté, son nom c'était Benoît Côté de Chicoutimi, mais il était fort comme un ours, et contre Doug Hepburn de Vancouver. Et lui, il était son agent, c'était le réputé, tu peux chercher le nom, là, Ben Widder.
Ben Widder,
là, lui, il vend des articles.
Oui, chose pro, ouais, c'est ça, les battus,
pour
les
même.
Dans les années 80, c'était très populaire.
Alors, le gars de Vancouver s'amène ici, et là, il y a trois ou quatre épreuves. Puis là, je reviens un peu à ce qui est écrit dans le livre, ce que j'ai ramené dans le journal Le Réveil. À la première épreuve, écoute comment il était fort, le gars, là. Ben Côté soulève de terre un poids de 752 livres, 200 livres de plus que le gars de Vancouver.
Tabarnouche.
Deuxième
700?
700 livres de terre.
Ah!
Deuxième épreuve, flexion des jambes. Côté encore, Ben Côté de Chicoutimi, surprend encore l'auditoire en soulevant 644 livres contre 600 pour Hepburn de Vancouver.
Mm-hmm.
Au lever poussé, là, c'est l'athlète de Vancouver qui a dominé avec 400 livres contre 359. Et là, ils ont additionné le total des livres. Et au total, ça a donné 2025 livres pour Ben Côté de Chicoutimi contre 1960, ce qui faisait de Ben Côté l'homme le plus fort du monde. Et en 1962, au mois de février, il avait soulevé de terre 700... T'étais impressionné tantôt?
Oui.
780 livres. Hey, Dominique, je parle. Devant 12 000 spectateurs au Colisée de Québec.
Pas de bon sens.
Il mesurait 6 pieds 1, Ben Côté, 287 livres.
Mais c'était pas le plus gros, là, 287 livres.
Non, hein? 6 pieds 1, c'est pas un GS.
Mais il avait une force surhumaine.
Surhumaine. Et sa carrière s'est terminée quand il avait fait une exhibition d'homme fort en voulant soulever deux véhicules. Il s'était déchiré un tendon.
Oh,
et sa carrière s'est arrêtée là. Et Dominique, des archives sonores, ça c'est un des... Je trouve que c'est une des faiblesses de la radio. On n'a pas beaucoup d'archives sonores. Puis depuis quelque temps, nous autres, on récupère.
Oui, exactement.
Mais es-tu capable de me sortir quelque chose, les amateurs de sport, Phil, puis moi? N'a pas.
Non. Moi, tu m'apportes des bobines, là. Non.
Il n'a pas. Des archives sonores.
On va demander à Phil s'il n'y en a pas.
Je ne suis pas sûr que Phil en a. En tout cas, il n'a pas d'archives sonores. Puis ça, je trouve que c'est une des faiblesses de la radio. Radio-Canada en a, là.
Ouais.
Et je vais te faire écouter... Le gars, l'homme fort en question, c'est une archive. On a réussi à mettre la main sur une archive sonore de 1966. Et là, le gars qui interview, il s'appelle Paul-Émile Tremblay. Moi, je me rappelle le Jean-Paul Tremblay, mais Paul-Émile Tremblay, je ne m'en rappelle pas. Puis tu vas voir, la radio, ça a changé depuis les années 1970-80, là. Vous écouterez la voix du gars, il a une méchante belle voix, là. Mais c'est pas la radio d'aujourd'hui, là.
J'imagine.
Non, c'est pas... c'est pas Jello, puis c'est pas Ewick, puis c'est pas Dominique Bolduc, puis c'est pas Pat Bouchard.
C'est Radio-Canadien.
C'est, dans le temps, les journalistes, les animateurs, ça parlait à la Radio-Canada. T'as bien raison. Alors, vous allez entendre le gars qui s'appelle Paul-Émile Tremblay, qui pose des questions bien de côté. Là, faites bien attention. Le son,
il y a 60 ans.
Il y a 60 ans. Alors, ça dure une minute. On écoute Paul-Émile Tremblay, qui est journaliste. À mon avis, ça devait être à Radio-Canada, à CBJ, dans le temps, ou à CKRS. Parce que des postes de radio en 1960, là,
il n'avait pas... C'était CKRS, peut-être.
C'était CKRS Radio ou Radio-Canada, CBJ. Alors, Paul-Émile Tremblay qui interview Ben Côté. Écoutez bien ça.
Est-ce que, étant petit gars, là, vous vous souvenez d'avoir été plus fort que tous les autres enfants à l'école?
Ben, j'étais pas un pire. On faisait des essais de l'entendre, des chars de bazou, on voudrait dire. Que j'étais jeune, je me rappelle une fois qu'il avait levé derrière un bazou dans une maison, le nom de la machine était à Verlaine. Puis c'était pas lourd comme aujourd'hui, mais je levais du dos, là, je levais une roue, je levais d'un bord derrière, en avant.
Est-ce que vous êtes un homme violent?
Non, c'est-à-dire... Je encaisse longtemps, mais des fois, je peux devancer qu'à certains milieux. Il y a un temps qu'on ne sait pas des fois ce qu'on peut aller jouer, mais par contre, des fois, dans la chicane, on se fait provoquer. Puis des fois, les types là, qui nous provoquent, là, on serait capable de les casser en deux, mais on l'encaisse pareil. Il faut
vous retenir.
Il faut retenir jusqu'à certains points, oui.
J'adore cette archive sonore. Le son est quand même pas si pire.
Quand même, oui.
Paul-Émile Tremblay, c'est le gars qui interview. Et celui que vous entendiez, c'était Ben Côté, l'homme le plus fort du monde. Un gars de Chicoutimi. Ça s'est passé dans les années 1960. Dans un petit moment, Tom Lapointe va nous parler. Il est bien découragé du Canadien, lui aussi.
Ben, oui.
Les Marquis, ça va comme ça aussi. Ils vont jouer vendredi au Palais des Sports de Jonquière contre Laval. Et Dominique et moi, on offre à nos auditeurs une paire de billets pour le match de vendredi au Palais des Sports. Dans un petit moment, Tom Lapointe.
Arrêt de jeu. Oh! Retour dans le vestiaire dans quelques minutes. Participez, vous aussi, à nos émissions. Je suis Éric Lavoie, recherchiste du 92.5. Je vous invite à nous contacter et participer en ondes aux émissions Réveillez-vous et Le Retour. Vous avez une information à partager ou être témoin d'un événement, n'hésitez pas à me contacter en privé au 418-818-4991. Ma radio d'ici, toujours près de vous, 818-4991.
Chez Pièces d'Auto Sainte-Geneviève, on est les leaders en pièces de remplacement pour votre voiture, mais surtout, et c'est connu, les meilleurs prix en ville. Avec la saison qui commence à changer, passez nous voir en magasin. Que ce soit pour l'entretien de votre véhicule, produits nettoyants, essuie-glace, pneus, roues, mag, besoin de peinture, tout ce qu'il faut pour corriger votre carrosserie, pas de problème, on a ça aussi. Pièces d'Auto Sainte-Geneviève, c'est 25 ans à votre service, 4 magasins ouverts 7 jours sur 7. Pièces d'Auto Sainte-Geneviève, tu me sauves.
Les plaisirs d'automne, ça commence chez LCR. Obtenez 25% de rabais sur les vestes à carreaux doublées pour hommes ou femmes et 20% de rabais sur les pantalons doublés Big Bill. Partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'affiche mes couleurs. LCR.
L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière. On connaît tous la réputation de l'étoile Dodge Chrysler de Jonquière. Une équipe de gagnants. Et encore cette année, l'étoile est fière d'être partenaire des Marquis de Jonquière. La qualité et le service dont la réputation n'est plus à faire. Une équipe de vente chevronnée qui prend le temps de servir autant pour la vente que le service après-vente. Une expérience de plus de 30 ans pour nos travailleurs, des vrais passionnés. La gamme complète des autos camions, Dodge, Ram, Jeep, hybride, mini-fourgonnette, VUS, née, la cour est pleine. L'étoile Dodge Jonquière sur le boulevard du Royaume, fier d'être associé au Marquis de Jonquière. L'étoile Dodge
Chrysler. Vous êtes dans le vestiaire avec Michel Tifo et Dominique Bolduc.
Félicitations à Sabin Thibault qui ira voir les Marquis vendredi contre Laval, des billets qui ont été remportés.
Notre invité, Tom Lapointe, je ne sais pas si Tom a déjà assisté à un match de la Ligue nord-américaine. La question lui est posée. Tom Lapointe, bonjour.
Oui, bonjour. Mais il y a très longtemps, j'étais de passage entre... Parce que je venais à chaque année, de temps en temps, entre mes voyages à Los Angeles ou quand je voyage à Los Angeles ou à Paris. quand je rentrais de temps en temps, je me rappelle une fois, je suis allé voir jouer l'équipe de Laval.
Les Chiefs.
Ouais. Parce que justement, j'avais été invité par Jean-Marc Aymond, le fils de l'unique Tigui Aymond.
Oui.
Il était un des dirigeants de l'équipe. Et effectivement, ça s'était pas mal plus battu que ça va jouer.
Ça a changé un petit peu.
Ça a énormément changé.
Ça s'est amélioré énormément, surtout au niveau du calibre de jeu.
Ouais. Est-ce que ça donne une rivalité compte tenu de Québec avec le National de Québec? Je trouve le nom original qu'on
ça commence tranquillement pas vite, comme ils viennent tout juste d'arriver. Ils ont remporté leur première victoire face à Jonquière en fin de semaine. Ça va bien. T'sais, maintenant, la Ligue a 8 équipes. Saint-Hyacinthe qui vient d'arriver également avec les propriétaires, la Tendresse et la Pierre. Ils travaillent très fort là-bas de ce côté-là.
Oui, le bataillon.
Donc, ça va vraiment bien. Non, tranquillement pas vite, il va commencer à se créer des rivalités. Je pense qu'il y en a déjà une entre Laval et Saint-Hyacinthe, puis avec Sorel aussi, des marchés qui sont très près.
Est-ce que l'arrivée de gars comme, justement, des noms connus comme Lapierre puis la Tendresse, le nouveau propriétaire du bataillon de Saint-Hyacinthe, ça remplit l'aréna?
Bien, écoute, il y a eu quand même des foules intéressantes.
Parce que t'es allé en fin de semaine?
Je suis allé faire un tour en fin de semaine, puis un match samedi à 17h, c'était pas l'heure la plus intéressante, mais quand même près de 1200 spectateurs, c'est bien. Match d'ouverture, il était presque 2500 dans le centre LP gaucher. C'était quand même très intéressant.
Ici, Tom, la moyenne d'assistance depuis 2 ans, c'est 2000 et plus à Saguenay, au Palais des Sports à Jonquière.
Mais vous aimez le hockey par chez vous?
Ah oui!
Bien, il y a des soirs, Tom, là. Le vendredi, il y a 2000 au Marquis, puis il y a pas loin de 3000 au Saguenayen, au centre Vézina. Hey, c'est 5000 personnes dans une ville, là. C'est bon pour le hockey, là.
Vous êtes gâtés, mais j'avais toujours aimé le hockey. Ouais. Chez vous, ça ne changera pas.
Les Canadiens, maintenant. On essaie de mettre le doigt sur le bobo. C'est une mauvaise équipe, un mauvais coach ou une autre réponse. Tom Lapointe, tu connais le hockey. Tu suis la Ligue nationale depuis plusieurs années. Il est où le problème du bleu-blanc-rouge?
Moi, je pense que maintenant, on doit faire face à la question que je pose. C'est est-ce que c'est une mauvaise équipe ou un mauvais club, un mauvais coach? J'ai l'impression que c'est un peu des deux actuellement qu'on joue. En ce sens que si le coach n'a pas une très bonne équipe, il va paraître comme un mauvais coach. Et si l'équipe, je veux dire, est un peu meilleure et elle n'a pas un bon coach, elle ne performera pas. Donc, je pense que on vit actuellement un peu l'amalgame des deux. Et ce qui donne le résultat qu'on a, c'est-à-dire qu'ils sont 29e dans la Ligue, 4 victoires, 7 défaites, 1 nul. Et moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est que il n'y a pas de cohérence, Martin Saint-Louis. Aujourd'hui, il s'est fâché. Tu as vu, là, depuis 3-4 jours, là, tout à coup, il se fâche. Aujourd'hui, il a arrêté. Il a sifflé, il a engueulé ses gars durant la séance d'entraînement. Là, on va vraiment passer à la vitesse et à la phase supérieure, en ce sens que si vraiment il fait peur à ses joueurs, il va falloir que ça paraisse. Demain, c'est quand même une bonne équipe, les Flames de Calgary, sauf qu'on sait que le Canadien, par les mardis, qui visent actuellement, après ce qu'ils ont vécu contre les Rangers de New York et après ce qu'ils ont vécu contre le Kraken de Seattle, on ne peut pas dire qu'on a droit à des gros mardis gras chez nous. Là. C'est des mardis maigres. Comment ça fait dur? Là,
et Martin Saint-Louis a-t-il les éléments pour la guerre au moment où on se parle, Martin Saint-Louis?
Moi, j'aimerais qu'il soit plus stable avec ses joueurs, qu'on ait vraiment la réponse. Moi, je donne déjà l'exemple de Slafkovský. Slafkovský, rappelle-toi, là, dans tous les Canadiens, a acheté sa propre publicité avec le fameux du côté des anglophones de Rebuild. Et chez nous, ici, la reconstruction dans une série de documentaires sur Crave. Et c'est pour ça qu'ils ont été obligés de dire qu'on passait dans le mix. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est qu'ils finissent l'année en disant enfin, on a un gros premier trio à Montréal. Je vois Michel quand. Canadien, puis je ne veux pas comparer les époques parce que c'est trop facile, parce que les gens vont dire « Ah, la pointe, ferme ta gueule, parce que dans ton temps, c'était toujours mieux, puis ainsi de suite. » C'est pas ça que je veux dire. C'est que les bonnes équipes, dans le temps, gardent longtemps leur trio qui fonctionne et ne les démantèlent pas. On a fini l'année en mettant en haut de l'affiche le trio de Slafkovský, Caulfield et Suzuki comme étant « C'est ça, c'est notre perle, ça s'en vient. » Slafkovský se blesse après seulement quelques parties. Et la récompense qu'on lui donne, on lui donne une tape sur la gueule en disant « Mais tu reviens pas sur le premier trio. En plus, on te met Josh Anderson, on te met Kirby Dash, qui est le pire différentiel de toute la Ligue nationale de hockey. Si tu es dans la tête du jeune, tu le mélanges déjà. Et ça, ça me dérange. Ce qui veut dire que donne la stabilité là, à ses défenseurs, là, même s'il fait des erreurs, exemple, plein d'Anderson. Si on regarde, on prend les duos de défenseurs. Moi, je suis content qu'ils gardent Lane Larson avec le vieux Savard, qu'ils apprennent à jouer ensemble, que Gauly joue avec Mathewson, puis qu'après ça, qu'on donne la stabilité, puis qu'on arrête de mélanger. Moi, j'aime pas ce qu'on fait également à un gars comme Jack Eye. Bien sûr qu'il est aimé par le public, puis il doit pas jouer parce qu'il est aimé par le public. Mais on doit y donner... Moi, j'ai regardé la game de... Je regarde toutes les games, mais j'ai regardé la partie de l'autre soir contre les Penguins de Pittsburgh, et je trouvais qu'il jouait son rôle. Même s'il est sûr, il est 5 et 6, avec, il jouait l'autre soir sur la troisième paire de défenseurs, j'ai aimé ce que j'ai vu, parce qu'il défend ses joueurs, il est très physique, puis il a joué une bonne game. Donc, pourquoi on va là commencer à se dire, ben on en a perdu une autre game, on va encore le retourner à Laval. Autre point, Michel, puis Yves, là-dessus, et les gens qui nous écoutent, c'est pourquoi que, je veux dire, il fait des séances punitives. Ça ne paye pas des séances punitives comme fait Martin Saint-Louis. Il faut qu'il donne des vraies punitions. Puis des vraies punitions, c'est ceux qui se pognent le moine, là. Je veux dire.
À Boston, hier, à Montgomery a laissé sur le banc Pasternak à la troisième période.
Mais voilà, mais qu'on en retourne un, qu'on retourne Dvorak ou qu'on retourne Armia ou qu'on retourne Anderson. Avec le Rocket de Laval,
des
qui va
estrades,
très bien.
Ou encore des estrades, parce qu'il y a les contrats aussi. Là.
Je sais. Mais quand même, qu'on les mette dans les estrades déjà. Et qu'on récompense les gars. Regarde, on a tourné sans... On dit qu'il a connu un mauvais camp d'entraînement. Écoute, Canadien a connu... Toute l'équipe a connu un mauvais camp d'entraînement. Ouais. Pourquoi on fait payer un jeune qui produit déjà, qui a seulement 21 ans, qui est un Québécois...
Joshua Roy.
Qu'on ne sait pas jouer... Qu'on ne te place pas sur un trio régulier en disant, écoute, on te parque, on te stationne sur le deuxième trio avec Kirby Dash puis avec New York si on veut faire ça, ouais. Mais qu'on le laisse là, qu'on le laisse pas là parce qu'ils ont deux défaites. Et le gars qu'on coupe tout le temps, c'est le petit jeune. Qu'on coupe ceux qui ne performent pas. Il y en a une méchante gang actuellement.
À défense, tu parlais de Lane Hudson. Tantôt, a-t-il trop de temps de glace?
Ben, moi, je trouve au moins qu'il provoque quelque chose. Je trouve qu'actuellement aussi, il commence à mieux contrôler ses sorties parce qu'il se fait prendre. C'est le genre de défenseur offensif qui se fait prendre souvent en prenant trop de chance. Je trouve que contre Pittsburgh, il était plus calme. Oui, il a transporté la rondelle. Oui, il a fait des beaux jeux. Puis, il a toujours été cohérent. Mais c'est pour ça qu'on le fait jouer d'ailleurs avec David Savard. Parce qu'on dit à David Savard, là, rappelle-toi à la grosse époque du Big Three, il y avait toujours Serge Chavard qui restait en arrière, lui, pendant que Larry puis Pointu prenait des chances. Donc, à partir du moment que David Savard connaît son rôle, qui dit « Vas-y, jeune, lance-toi là », et surtout que l'allié gauche, qui lui voit Lane Hudson, qui est très habile, s'en aller en attaque, qui vienne prendre un peu de recul pour le protéger au cas où il se fasse enlever la rondelle.
Et toujours au hockey, selon toi, Tom Lapointe, Alexander Ovechkin va-t-il rattraper Wayne Gretzky cette année?
Écoute, c'est pour ça qu'en début d'année, j'aurais dit non. Mais là, écoute, le père Ovi, là,
il fonctionne. Hein? Près, là.
Écoute, il a marqué son 7e, là, si je ne me trompe pas, hier.
Oui.
Les Capitals ont 8 victoires, 3 défaites depuis le début de l'année. Donc, il ne fait pas juste de marquer. Parce que souvent, le nombre de buts qu'il a marqué dans un filet désert, c'est assez impressionnant. Donc, sur ces 7 buts, je pense qu'il y en a seulement un dans un filet désert cette année. Il a retrouvé sa position préférée où il compte à peu près tous ses buts.
Au cercle. Je veux
dire, il a vraiment sa zone privilégiée où il est très bon. Et moi, ça me fait dire que là, il n'en manque que 34. Et là, il est vraiment dans un pace où, oui, il peut battre le record de Wayne cette année, c'est-à-dire de le rejoindre avec 894 buts en marquant 34 autres. C'est-à-dire, ça lui donnait une saison de 41 buts. Je n'y croyais pas en début d'année, mais compte tenu que l'équipe est meilleure, il n'était jamais meilleur que l'équipe avec qui tu joues à un moment donné. Là. Et ils ont fait des beaux changements. Tu vois la différence avec les Capitals et les Canadiens, c'est qu'eux, la reconstruction complète, ils n'y croient pas. Ils sont allés chercher Dubois, sont allés chercher, ils ont fait 2-3 bonnes transactions et ils ont donné la chance à 2-3 de leurs jeunes de commencer à performer. Ce qui fait, moi, j'aimais ça. J'aimais pas, moi, je détestais pas complètement, moi, le plan de travail de Bergevin qui, de temps en temps, a eu des bonnes équipes beaucoup plus que. Et on y reproche parce que, justement, on disait toujours qu'il tentait de frapper le grand chelem pour que l'équipe, je veux dire, fasse les séries, se rende loin dans les séries. Mais moi, j'aimais ça parce que entre l'ère de Bergevin, où on voyait le Canadien souvent dans les séries, là, écoute, quand est-ce qu'on va voir le Canadien dans les séries de la manière qu'il joue?
Oui, exact. Au baseball, la semaine dernière, je disais à Dominique, Tom, je serais curieux, j'aimerais ça être un petit oiseau pour voir quel genre de réception, après la victoire des Dodgers, là, quel genre de réception de souper, de glamour attend les joueurs des Dodgers de Los Angeles? Tu as vécu dans ce coin-là, tu connais la façon de vivre des gens de Los Angeles. D'après toi, ils ont dû être servis à soi après leur victoire contre les Yankees.
Écoute, j'ai tout regardé, moi, sur les réseaux sociaux. J'ai à peu près tous les joueurs des Dodgers sur, comme avec les posts avec que je fais, je vois tout ce qui se passe. Et la vague d'amour qu'ils ont eue, c'est extraordinaire. Écoute, pour connaître Los Angeles, pour vraiment te retrouver, avoir les autobus qui partent des grandes avenues et qui s'en vont au centre-ville de Los Angeles, et qu'à Los Angeles, c'était des milliers et des milliers et des milliers de personnes, et tout ce monde-là a fait une espèce de grande procession pour s'en aller au Dodger Stadium. Le Dodger Stadium était plein à craquer. Et moi, ce qui me fait dire, moi je suis content du succès des Dodgers pour une raison, c'est qu'ils m'ont prouvé que les athlètes d'aujourd'hui peuvent être des gars unis, sincères, qui se tiennent entre eux autres. Vous n'avez pas vu ces réseaux sociaux, comment ils ont réagi. Je vais te donner seulement 3 noms, Michel, des gars qui sont passés au micro alors que le Dodgers Stadium était plein à craquer puis que ça fêtait. Ils ont emmené Ice Cube. Dave Roberts a trouvé le moyen d'aller faire le party avec Ice Cube. Et après ça, il a fait parler de ses joueurs. Et t'as entendu un gars comme Teoscar Hernandez qui est arrivé au micro. Il pleurait comme un enfant. Il disait, thank you so much. I'm so grateful to play for the Los Angeles Dodgers, my family. Il pleurait comme un enfant, puis tu voyais que c'était pas du fake, là. Après ça, tu as vu arriver la même chose. Il s'est mis à parler, il a remercié sa mère en haut. Tu as vu arriver Freddie Freeman qui a fait la même chose. Dave Roberts, écoute, ils ont passé au micro à peu près toute leur line-up. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est de voir que ces gars-là qui gagnent des millions sont capables de jouer avec la ferveur d'une équipe unie. Et c'est pour ça que je veux dire que je suis en amour. Et là, cette année, puis j'étais, j'ai tout vu arriver, moi, là, quand Don Mattingly s'est fait congédier par les Dodgers, j'étais à Los Angeles et qu'on l'a remplacé par Dave Roberts. Je ne connaissais pas trop. Je savais que, évidemment, il avait connu des grands moments avec les Red Sox de Boston dans une série mondiale. Je savais aussi qu'il venait de l'antichambre en cours à pas loin des Dodgers à San Diego. Et j'étais un peu sceptique. Mais de la manière qu'il a coaché Dave Roberts, là, il a gagné toute mon admiration. Tu as vu comment il a fini ça l'autre soir, alors qu'on était convaincus quand ils sont venus de l'arrière, alors que les Yankees se sont battus tout seuls à cette fameuse cinquième manche horrifique-là de dehors. Tu as vu Dave Roberts prendre les bonnes décisions quand ils ont pris les devants. Et qu'ils finissent ça avec son gars qui a été opéré 2 fois au coude, c'est-à-dire Walker Buehler, et que Walker Buehler vient de finir ça avec un retrait au bâton contre Verdugo, qui lui avait connu débuter sa carrière. J'avais vu, moi, je le trouvais bon, Verdugo, et je comprends, bon, il faut me demander, tu ne peux pas tous les garder. Il y a un seul gars, moi, j'aurais aimé qu'il fasse partie de l'équipe, malgré que Edmund l'a bien remplacé, le Tommy Edmund était formidable. Le seul gars que j'ai trouvé qui faisait partie de la Family Blue, qui n'était pas là, et qui a gagné une série mondiale l'année passée sans les Dodgers, c'est Seager. Corey Seager, ouais, pour moi, ouais, était un vrai Dodgers. Il voulait rester là-bas, puis on ne l'a pas signé.
En terminant, Tom, on t'a fait faire beaucoup de recherches dernièrement quand on t'a parlé de l'émission TQS, l'émission Macho avec Alex d'Aragon. Finalement, tu as réussi à retrouver des archives. D'ailleurs, tu nous as envoyé une photo d'Alex d'Aragon. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette fille que ça fait longtemps que tu n'as pas vue?
Ben, écoute, j'ai appelé quelques-uns de mes amis parce qu'elle a fait beaucoup plus de radio que de télévision à l'époque. Quand moi, elle a co-animé avec moi un Macho à TQS. Moi, je la connaissais presque pas, mais c'est comme je suis arrivé, puis du jour au lendemain, le producteur me dit, Tom, il y a une jeune femme qui arrive de la radio, qui est sur les FM, puis qui est très bonne, qui s'appelle Alex d'Aragon, c'est une perle. C'était un plaisir de travailler avec elle, ça n'a pas duré assez longtemps, mais j'ai écoute des gars qui ont travaillé avec elle, dont Ricky D, qui était un bon chum. Ricky aussi me dit, Tom, tout le monde à qui j'ai demandé, on l'a perdu de vue. Ça veut dire qu'elle s'est sortie complètement des médias et je ne sais plus du tout ce qu'elle fait.
Tu as eu la chance, Tom, de travailler à la télévision, à la radio, et évidemment, on t'a connu aussi beaucoup dans le monde des journaux. Si demain matin, si tu avais épousé une carrière, là, juste un média, lequel des trois choisirais-tu?
Écoute, je pense que j'hésiterais. D'abord, la télévision serait mon troisième choix. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce que vous faites, les gars, la radio. Pour moi, la radio, c'est inné. J'ai fait ça, mais je ne serais pas capable de ne pas écrire. Parce que pour moi, écrire, c'est ma première passion. Et je le dis très humblement, le fait, Michel et Yves et les gens qui m'écoutent, le fait d'avoir vécu plusieurs années, d'avoir lu beaucoup durant mes années que j'étais à Paris, ça m'a aidé beaucoup, je pense, à devenir encore un meilleur journaliste écrit que je suis aujourd'hui. Et je sais qu'il y en a des encore bien meilleurs que moi, mais la passion de l'écriture, j'hésiterais beaucoup entre la radio et l'écrit. Et ma troisième passion, ce serait la télévision, mais ça viendra après.
Exactement. Moi, la télévision, j'ai adoré la télévision parce que c'est un travail d'équipe. Mais moi, la radio en premier, quel beau médium rapide, instantané. C'est là qu'on peut voir les réflexes des animateurs, des collaborateurs. Puis on est heureux que tu fasses partie de notre équipe, Tom Lapointe. Et j'ai déjà hâte à la semaine prochaine.
Ben, tu vois, c'est. Moi, ce que j'aimais moins de la télévision, c'est quand on imposait des choses. Que tu le veuilles ou non, tu écrivais toi-même, exemple, ton préambule à ton show. Mais après ça, tu travailles toujours avec un prompteur. Ça n'existe pas à radio. On a. Comme je t'ai envoyé un matin, je t'ai envoyé mes notes, et tout de suite, tu rebondis. Tu n'as pas besoin que je rende des explications. Tu as les trois punchlines. Puis après ça...
On improvise. Oui, c'est ça.
Je pense que c'est ça, que les gens qui écoutent la radio, c'est ce qui s'attend des gens comme nous, Michel, toi et moi.
Merci de nous faire profiter de ton expérience encore, Tom Lapointe.
Ben j'ai bien du fun, puis on va avoir du fun longtemps.
OK, yes. Merci.
OK, bye-bye.
On va avoir du fun longtemps, j'aime ça. Parce qu'on sait qu'il se bat avec la maladie, là, Tom Lapointe.
Bravo. Il est confiant.
Sa voix est bonne.
Oui, tout à fait.
Moi, je le vois dans la voix. Parce que Dominique et moi, on travaille avec des écouteurs tout le temps, là. On est habitués. Moi, Dominique, des fois, il arrive, je dis, t'as la grippe, t'as un rhume? Je suis habitué de t'entendre régulièrement. Puis des fois, tu sais, ou la fatigue.
Oui, ça peut arriver.
Puis Tom, à un moment donné, ça fait quoi, deux mois qu'il collabore avec nous autres?
Oui, à peu près, oui.
Dans les deux mois, c'est arrivé une fois. Et il y avait eu des traitements de chimio le matin.
Il venait d'avoir des traitements.
Puis il m'avait dit dans la journée, je pense que je vais être correct, là. Il dit, je te réécris dans une heure. Puis il m'avait dit, je vais être. Mais ça paraissait qu'il y avait des.
Il était fatigué.
Il était épuisé, ce pauvre lui. Mais de continuer de travailler, puis mais je pense que c'est ça qui nous tient en vie. Hein.
Ben, certain.
Moi, je veux dire, des fois, il y en a qui disent, quand est-ce que tu vas prendre ta retraite? Tant que le bon Dieu va me donner la santé, la voix, pour être capable de m'exprimer, ben, je vais continuer. Puis je me trouve chanceux de pouvoir le faire encore. Dans un petit moment, on va jaser avec un ancien joueur des Saguenayens, René Lécuyer.
Dans le vestiaire, l'équipe étoile 100% régionale vous revient après cette pause publicitaire au 92.5, ma radio d'ici.
Rencontrez la culture au sommet du Mont-Jacob avec le théâtre La Rubrique.
Le film Deux femmes en or revit sur les planches de la salle Pierrette Godreau dans une adaptation contemporaine de l'autrice Catherine Léger. Pour briser la monotonie du quotidien et l'absence de leur mari, deux femmes de banlieue, interprétées par Isabelle Brouillette et Sophie Desmarais, prennent en main leur propre plaisir. Jusqu'où mènera cette quête d'affranchissement? La comédie Deux femmes en or est présentée le 19 novembre à 19h30.
Réservé au théâtrelarubrique.com. Une invitation d'Hydro-Québec, partenaire de saison.
Vous aimeriez vous débarrasser de vos maux de dos, mais vous êtes découragé après plusieurs tentatives? Si vous souffrez toujours de douleurs au dos, au cou ou d'engourdissement malgré les bons soins reçus, peut-être que vous souffrez d'arthrose vertébrale ou encore de blessures à vos disques. Et si c'est votre cas, les docteurs de la clinique Neurodisque peuvent vous aider à mieux comprendre ainsi qu'à mieux soigner votre condition. Prenez rendez-vous maintenant au 418-543-1113 pour un examen complet de votre condition actuelle avec les docteurs de la clinique Neurodisque et donnez-vous la chance de recommencer à vivre pleinement. And we will make
America great again. Le 5 novembre, l'équipe d'Il faut qu'on se parle est en mode présidentielle américaine. Retrouvez-nous dès 20h pour une couverture complète de ces élections. Des entrevues avec des spécialistes, des débats, des mises à jour en continu de chaque État et plus encore jusqu'à minuit. Les élections américaines, ça se passe au 92.5. The fundamental freedom of a woman
to make decisions about her own body. Prenez le contrôle de la route avec le Kia Sportage 2025 de chez Kia Harold Auto. Le plaisir de conduire intégral. Maintenant disponible chez Kia Harold Auto, 418-693-8050. Kia, du mouvement vient l'inspiration.
Hockey Junior. Si ma mémoire est bonne, Dominique, là, on retourne dans les premières années des SAGs. Et justement, pour nous présenter notre invité, voici Yves Bolduc. Yves, bonjour.
Salut les gars. Non, au milieu des années 80, dans la première partie des années 80. Okay. Mais juste avant de l'introduire, Michel, il faut que je te dise qu'on a travaillé très, très fort cette semaine. On avait demandé, on vous avait annoncé la possibilité d'avoir Michel Therrien en entrevue. On a été... on a fait des contacts et je veux ouvrir une autre parenthèse ici à Dominique. Là, je m'excuse si Tom a dit Yves souvent, c'est probablement parce que j'ai passé par Tom plusieurs fois cette semaine pour tenter d'avoir des ouvertures pour avoir Michel Therrien. Finalement, la réponse, c'est qu'il y a une exclusivité avec TVA Sports, donc c'est impossible. J'ai parlé avec Michel. Il va se reprendre lorsqu'il sera libéré de cette clause-là dans son contrat. Ça va lui faire plaisir de venir à
nous. Oui, mais il y a un contrat à long terme, comme les joueurs de hockey, un contrat de 8-10 ans.
Oui, mais je ne suis pas certain que TVA Sports, ça va durer 8-10 ans encore, Michel. Et là-dessus, je ne suis pas certain que notre chronique sera encore en fonction, mais on pourra l'avoir quand même en entrevue de notre chronique. Et j'ai ensuite travaillé avec les Islanders de New York pour tenter d'avoir l'entraîneur adjoint, Benoît Desrosiers, qui a été de passage avec les Saguenayens une saison également. De ce côté-là, ben, on m'a répondu que seul Lou Lamoriello et Patrick Roy sont autorisés à donner des entrevues au niveau du personnel hockey. Et puis notre invité d'aujourd'hui, ben, c'est pas un prix citron, là. Il est pas là parce qu'il n'y en a pas d'autres. Il était prévu dans nos prochaines semaines. On a juste devancé. C'est un bonhomme que moi, j'ai beaucoup apprécié. Sa fougue, un gars qui aimait le jeu robuste. Un choix de quatrième ronde, le 37e au total en 1982. René Lécuyer est avec nous. Bon après-midi, René.
Salut tout le monde, vous allez bien?
Très, très bien. René, raconte-nous un peu tes débuts dans le monde du hockey. On commence toujours avec cette première question, parce que pour aboutir au hockey junior majeur, il faut avoir connu un petit peu de succès dans le hockey mineur. Ça a été quoi pour toi, le hockey mineur, René?
Bien, au départ, j'ai joué dans mon village Saint-Alban, dans une patinoire extérieure. Puis ensuite, on est allé à Saint-Marc-des-Carrières où on a fait le hockey mineur Bantam et Midget 3A à Sainte-Foy.
Et puis, ça s'est passé comment ta saison avec les gouvernants?
Ça s'est bien passé. On a perdu en finale de la Coupe Air Canada.
Non, quand même.
Et puis, ça t'a permis ensuite d'être repêché par les Saguenayens, comme je le mentionnais, en quatrième ronde, le 37e au total en 1982. Est-ce que c'était un rang qui t'était adressé ou tu pensais d'être plus tôt ou plus tard dans le repêchage?
Ben, j'étais quand même satisfait parce que j'avais eu une très bonne saison avec les gouverneurs. Puis, j'étais positif dans le fait de rejoindre les Saguenayens parce que je savais qu'il y avait besoin de défenseurs robustes.
Tu fais partie du groupe des anciens Saguenayens avec qui on s'entretient. Et d'ailleurs, le 130e qu'on reçoit depuis janvier 2022. Parle-nous d'une personne qui a eu une grande influence dans ta carrière de hockey junior.
Bien, c'est certain que notre premier entraîneur, c'est celui qui nous marque le plus, je pense. Ça a été Michel Morin. Il était vraiment très intéressant à côtoyer.
Il y avait des méthodes qui étaient un petit peu à discuter. Par contre, on a parlé avec d'autres anciens, puis c'était pas toujours l'unanimité là, avec Michel Morin.
Ah ben non, mais c'était des méthodes des années 70, là.
Qui appliquait encore au milieu des années 80.
Oui, oh oui, c'était rough là, comme entraînement.
Quelle était ton méthode d'entraînement? Oui, c'était quoi ces méthodes d'entraînement?
Ah ben c'était parler fort puis demander beaucoup d'efforts des joueurs.
Est-ce que le message passait?
Ça grichait d'un coin des fois.
quel était ton surnom, René, avec les Sags? Puis qui étaient tes meilleurs?
Ça a toujours été Cheval, mon surnom, parce que doté d'une force naturelle, tous les gars en revenaient jamais. Là.
Et, ça venait d'où, cette force naturelle-là? Quand t'étais flou, t'étais fort aussi à l'école?
Fort à l'école, puis fort, j'ai toujours travaillé. On a été élevé sur une ferme.
Ah ah! Ah ah! Ah ah! Voilà! avec les balles de foin, là, tu t'es fait des bras.
Les balles de foin, les animaux, le bois de chauffage. Ouais.
C'est là que tu as développé ta force.
Exact.
Vois-tu, aujourd'hui, il y a des gymnases en plein centre-ville. Lui, dans le temps, le gymnase, c'était la ferme.
Ouais, 5 jours sur 7.
5 jours sur 7.
Oui, tôt le matin, j'imagine.
Exact.
Qui étaient tes meilleurs amis?
À Chicoutimi?
Oui.
À Chicoutimi, ben on a eu beaucoup de plaisir avec la brigade défensive, là. Christian Duperron, Ray Quigley, Marc Bergevin. Puis tout le monde, c'est les plus belles années de notre vie, là.
Marc Bergevin a percé dans le monde du hockey, il s'est retrouvé dans la Ligue nationale à Chicago. Après ça, il s'est retrouvé à la direction des Canadiens de Montréal. Tu as connu le gars, évidemment, tu as joué au hockey avec. Est-ce que tu t'attendais, René, de voir un gars comme Marc Bergevin se retrouver dans la Ligue nationale comme joueur puis comme dirigeant?
Bien, comme joueur, oui, mais comme directeur général du Canadien, j'aurais jamais imaginé ça dans mes rêves les plus fous. Là.
C'est bon.
Oui, parce que c'était un joueur de tour déjà à l'époque du junior, donc cette partie-là de sa personnalité faisait qu'on ne pensait pas directement, on ne faisait pas le lien directement avec un poste de haute direction dans la Ligue nationale.
Jamais.
Depuis la fin de ta carrière junior. Oui, vas-y, vas-y.
C'est un gars qui a toujours resté impliqué et qui connaissait tout le monde. C'est ça qui l'a amené à la direction du Canadien.
Ouais, puis c'était un gentleman. Là. Il jouait des tours, mais c'était pas des tours méchants non plus. C'était toujours pour faire rigoler. Là. Depuis la fin de ta carrière, est-ce que tu as revu des matchs de la RHGMQ? Puis si oui, est-ce que tu as vu des différences? Ben, tu en as sûrement vu, mais quelles sont les différences les plus évidentes que tu as vues par rapport à il y a 40 ans?
Moi, je trouve que la vitesse d'exécution puis le patinage des joueurs, c'est exceptionnel. Là. Le mouvement de la rondelle, c'est de toute beauté de les voir jouer. Là. Beaucoup plus rapide.
Parle-nous maintenant de ta situation familiale, épouse, conjointe, enfant. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie après ta carrière junior? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Puis où tu habites?
Après ma carrière junior, je suis allé jouer au Nouveau-Brunswick. J'ai été joueur-entraîneur en France. Je suis revenu au Québec en 99. J'ai démarré une petite entreprise de sport d'hiver, traîneau à chien, motoneige, escalade, jusqu'en 2019, jusqu'à la COVID. Puis j'ai une femme, deux beaux enfants, des chevaux, des chiens, des poules. J'habite encore sur la ferme.
J'ai encore deux questions. Familiale. J'ai encore deux questions, René. Es-tu encore fort Allez-y. Comme un cheval?
Ben, c'est ce qu'on dit.
C'est ce qu'on dit. Puis mon autre question, ouais. T'as deux gars. Les deux gars sont sur la ferme. Ils vont-tu être forts comme leur papa?
Ben, c'est... Je vais te dire, c'est de la bonne génétique parce qu'ils sont pas mal forts déjà.
Ah ouais. Ils ont quel âge?
21 puis 15.
Ah ouais, puis ils sont forts physiquement aussi. Ils ont de la génétique, ah c'est ouais. sûr.
Exact.
C'est quoi le meilleur exercice sur une ferme pour devenir fort? Les balles de laine, les balles de foin, c'est quoi qui fait que tu deviens fort à travailler sur une ferme?
Ben c'est le quotidien. C'est le quotidien, c'est les balles de foin, c'est à tous les matins, tous les soirs. Puis le bois, ben c'est aussitôt que tu as du temps, ben tu vas au bois.
Ça pèse combien? Ben, c'est sûr que le bois, ça aide aussi à tenir en forme. Une balle de foin, ça pèse combien? Parce que Dominique puis moi, ici en studio, disons que c'est pas de notre outil de travail.
les balles de foin, là, régulièrement, là, c'est entre 40 et 60 livres.
OK, puis t'en garoches combien sur le dessus de la pile?
Ben, bon an, mal an, là, avec 100 têtes de boucherie, on en trime entre 12 et 15 000 balles.
Ouh! Ah, ouais. Un gars se fait des bras, hein?
Se fait des bras.
Ouais.
Ben, ça fait des bras, des jambes, des dos, des coups, ça fait tout.
C'était un des joueurs, mais si vous vous rappelez certainement qu'on a eu des invités qui nous ont parlé, entre autres, des camps d'entraînement où Mario Bazinet faisait le couloir de la mort lors du camp d'entraînement où les joueurs devaient passer tous les autres sur le bord de la bande pour une mise en échec. Il n'y en a pas beaucoup qui aimaient arriver à vis-à-vis René Lécuyer.
Non, probablement pas, non.
Et tu t'es ramassé en France comme entraîneur, joueur-entraîneur. Parle-nous de cet épisode-là.
C'était presque... Après mes saisons dans le Nouveau-Brunswick, dans les ligues seniors, après ça, Terre-Neuve dans les ligues seniors aussi, où on a bien réussi. Je suis allé à Montpellier, dans le sud de la France, comme joueur-entraîneur. Parce qu'il y avait des gars comme Martin Bouliane, Ron Finn, Simon Genet qui étaient déjà en Europe. Puis j'avais eu des bons contacts. J'étais entré à Montpellier.
Quelle est la personne dans toute l'organisation des Saguenayens dont tu as gardé le meilleur souvenir?
Et Cibolle. Ça serait difficile d'en nommer juste une personne. Tu sais, il y avait des gars comme Luc Dufour, des gars comme Michel Boivin. Germain Monger, Michel Parizeau, c'est tous des gens qui ont été très gentils avec moi puis que j'ai gardé un bon souvenir.
Luc Dufour, j'ai joué au hockey avec, là. Quel gentleman! Je l'ai connu, moi, après son hockey junior, là, il revenait de la Ligue nationale où il avait joué à Boston puis il a joué à Québec. Exact. Mais junior, même quand il était plus jeune, 17-18 ans, parce que lui, il a joué là, avec Normand Léveillé aussi. Là. Vous avez joué avec Normand.
Oui, c'est exactement, c'est notre première saison ça, que Normand est parti à Boston.
OK, puis Luc Dufour, vraiment reconnu comme un grand gentleman.
Ben, déjà, oui. À cette époque-là, c'était un bien bon gars.
Et Luc Dufour, là, dès qu'il y a une activité organisée par les anciens Saguenay, c'est le premier qui appelle, qui lève la main. C'est le premier qui appelle pour participer. Toujours fier de reporter les couleurs des Saguenayens. René, au cours de ta carrière avec les Saguenayens et avec les Bisons de Granby, parce qu'on va en reparler un peu plus tard, tu es passé dans une transaction mémorable aux Bisons de Granby. À part le St. John's Vézina, où connaissais-tu tes meilleurs et tes pires matchs?
Meilleur match. Drummondville, Laval contre le Grand Mario. Après ça, la pire, je pense, c'est Shawinigan dans un camp d'entraînement avec du brouillard sur la glace puis une bagarre générale. C'est assez mémorable.
On va mettre le hockey de côté un peu. Lorsque tu allais à la petite école, ta matière favorite à part l'éducation physique, c'était quoi? Puis pourquoi?
Hey, j'ai toujours été bien attiré par l'histoire et la géographie.
Ah oui, pourquoi?
Oui. Ben savoir d'où les gens viennent, quand ils sont arrivés, pourquoi ils sont là, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Ça m'intéresse encore d'ailleurs.
As-tu une anecdote inoubliable de ton passage avec les Saguenay?
Oui. On est revenu d'un gros voyage, Plattsburgh, Hull, Laval, puis on avait mangé toute une dégelée à Laval, puis on était obligé de s'habiller à 3h du matin avec Bazinet pour aller s'entraîner. On l'avait trouvé capable.
René, Tantôt, au début de l'émission, on a eu un reportage avec un ancien homme fort de Chicoutimi qui est décédé aujourd'hui. Là. Il faisait des épreuves d'homme fort dans les années 60. Et je disais à nos auditeurs qu'il soulevait de terre, il levait pas ça au bout de ses bras, là, mais il soulevait de terre 780 livres. C'est pas des balles de foin, là, 780 livres, là, fallait le faire. Moi, j'ai pris ces notes-là dans un livre d'une historienne. Toi, as-tu déjà vérifié qu'on... On dit que t'es un homme fort, t'es élevé sur une ferme, t'étais capable de soulever combien de terre, tu sais-tu?
Et j'en ai aucune idée.
T'as aucune idée?
Aucune idée, non. J'ai fait des concours d'hommes forts un petit peu, là.
Puis les concours d'hommes forts, ça ressemblait à quoi?
Un chiffre que je peux vous dire, que je me souviens, c'est que d'avoir réussi à lever 1850 livres à la brouette.
Wow!
C'était-tu le défi Martin?
Ben, c'était quelque chose du genre, oui.
Parce que je me rappelle, dans les années 80, il y avait une épreuve, il était venu ici, puis à la conférence de presse, il nous avait demandé de soulever la brouette. On l'a pas soulevé, là. Mais c'était le défi Martin, la cigarette Martin.
Oui, bien c'est ça. Mais tu vois, moi, c'était à l'occasion du Festival de la Grosse Bûche dans un village voisin.
Le Festival de la Grosse Bûche. Et t'avais soulevé combien?
1850 livres à la brouette. Ouais.
Wow.
J'avais fini troisième.
Ah, mais le premier, il a soulevé combien?
2100.
Hey, j'ai une autre question. Je vais te donner des questions pour les hommes forts. Là.
Vas-y.
T'es-tu un gars... pour être un homme fort, il faut-tu manger beaucoup?
Ben non.
Non, pas nécessairement?
Non, j'ai jamais été considéré comme un gros mangeur.
T'es pas le gars qui mangeait 3 steaks, là?
Non.
OK. Alors toi, ton entraînement pour être un homme fort, c'était sur ta ferme?
Ben oui, principalement... Quand j'ai joué junior, ben on est allé un petit peu au gym, mais c'était pas encore la grosse... c'était pas un rock comme aujourd'hui. Là.
Non, la nutrition et le conditionnement physique n'étaient pas ce qu'il était aujourd'hui, effectivement.
Oh, non,
René, tu nous as parlé de quelques joueurs avec qui tu as eu le plaisir de jouer au début des années 80. Quel est le meilleur joueur que tu as côtoyé lors de ton passage avec les Saguenay?
Avec les Sag, écoute... Ben, il y a Luc Dufault, il y a Roberto Lavoie,
Feubert, oui. À quel joueur? Ouais. J'ai joué avec les deux Roberto Lavoie, là. Dominique, quand on l'avait signé avec les Condors.
Oui, ben
là,
oui.
C'était tout qu'un joueur de hockey, Roberto Lavoie. Puis un gars fin, en plus, là.
Ah, c'était sympathique au bout.
Sympathique. Il a joué, je pense qu'il a joué en Italie, si ma réponse... Si ma...
En Italie, puis en Suisse.
En Suisse, exactement, René. Oh.
René, t'as porté le numéro 2 avec les Saguenay. Est-ce qu'il y avait une signification pour le numéro 2?
Ben, il y a une signification. Je voulais avoir le 23, ben j'avais le 20 avec les gouverneurs. J'ai eu le 3 toute ma jeunesse dans le hockey mineur. Je voulais avoir le 23, mais ils l'ont donné au premier choix, à Yves Héroux.
Ah,
à Yves.
Exact.
Et on va maintenant se remémorer des bons souvenirs pour les partisans des Saguenayens, peut-être moins bons dans ton cas à toi. Le 10 janvier 1985, tu es passé au Bizarre de Granby en compagnie de Marc Bureau, Sylvain Demers, Lee Duhaime, Stéphane Roy et un choix de troisième ronde en 1985 qui est devenu Norman Desjardins, en retour de Greg Schultz et Stéphane Richer. Ça mettait fin à une période là, qui était un petit peu difficile pour toi avec les Saguenay, où tu as même décidé de quitter l'équipe pour aller jouer collégial 2A avec les Cougars du cégep de Chicoutimi. Parle-nous un petit peu de cette période-là, puis comment tu as vécu ça?
Ah, ben c'est justement après les tumultueuses sorties de M. Bazinet un soir au Colisée à Québec. On perdait, puis il avait fait encore une petite crise dans la jambe. C'est au mois de novembre, ça, je vous dirais. Puis après le match, j'ai laissé mon chandail là, puis j'ai dit, bon, ben pour moi, ça va être terminé le hockey.
Oh.
Aussi simple que ça. Hey, René, c'était agréable. Oh, oui. C'était agréable de te jaser. Et puis.
Ben, ça m'a fait plaisir.
Oui, puis continue de t'entraîner sur ta ferme.
Ah, oh, ben ça, c'est un petit peu au quotidien.
Merci beaucoup.
Grand bonheur. Ben, bonne fin de journée, tout le monde. Puis merci beaucoup.
René Lécuyer.
Merci, René.
René Lécuyer, il a été notre invité aujourd'hui. La semaine prochaine, est-ce qu'on a déjà un nom, Yves Voldic?
On a un nom en progression. Le travail se poursuit parce que lorsque j'ai parlé avec la directrice des communications des Islanders de New York, j'en ai profité pour, lorsqu'elle m'a annoncé qu'elle ne pouvait pas avec Benoît Desrosiers, ben, j'ai lancé l'invitation pour un autre joueur, un autre ancien des Saguenayens qui est avec les Islanders, qui a joué 23 matchs seulement avec les Saguenayens, mais que tout le monde...
Jean-Gabriel Pageau.
Jean-Gabriel Pageau. Ce wow. sera probablement notre invité. J'attends la réponse là, d'ici la fin d'après-midi.
Félicitations pour ton bon travail, Yves Voldic.
Merci, Yves.
Merci. Merci, les gars.
Au revoir.
Ce soir, ça serait une grosse prise, Jean-Gabriel Pageau.
Jean-Gabriel Pageau, aïe aïe.
Et série 2012, souvenez-vous. On avait éliminé les Cataractes de Shawinigan en deuxième ronde qui recevaient la Coupe Memorial. C'était rendu au troisième tour. Ça a été plus difficile par la suite, mais avec. On était allé chercher Christian Ouellet en
C'est
plus.
Ça que j'allais te dire. Christian Ouellet était dans le
grand chum à Christian. Christian Ouellet, Jean-Gabriel, Alexandre Canel, qui était capitaine de l'Arquie. Ça jouait tout ensemble à Gatineau, avant.
Oui. C'est vrai.
Ça a été des grands, grands amis.
Ça avait été une grosse transaction. Ouellet puis Pageau, là. C'est vrai, Pageau, il a joué avec les Saguenay de Chicoutimi.
Ben oui.
Ça me revient. Ce soir, il y a du football. Une équipe qui n'a pas perdu encore. Penses-tu que les Bucs de Tampa Bay sont bons pour...
ça va être difficile. Les Chiefs. Ça va être difficile. Moi, je pense que les Chiefs vont continuer leur saison parfaite ce soir avec cette rencontre. En plus, ils sont à domicile. 7 victoires, aucune défaite. Tampa Bay qui est 4-4. Manquez pas ça, cette rencontre-là. Ça va être intéressant du côté d'RDS.
Le Canadien, demain, contre Calgary, c'est pas dans la poche non plus, là. Non. C'était le fun d'entendre Tom Lapointe. Il se questionne sur Jekai. Il se questionne sur les trios du Canadien. Beaucoup de questionnements sur Martin Saint-Louis. Il doit commencer à trouver le temps long parce que là, il en est à sa quatrième année. Là.
Ouais. Ça?
Au début, les gens disaient ben, c'est un bon gars, puis tu sais, c'est un bon joueur, puis il n'a pas d'expérience, on pardonne. La deuxième année, même chose. L'année passée, ça a commencé à grogner un petit peu. Mais là, cette année, là, oh boy, il n'a plus...
Je veux bien croire qu'il y a des blessés, là, mais il faut continuer de développer. Mais là, ça ne développe pas. En ce moment, puis je vais dire exactement ce que Stéphane Leroux a dit, le fun, là, est à Laval.
Le fun
Ils
est
sont
à Laval.
8-1 depuis le début de la saison. Puis c'est ce que j'avais dit. Laval, avec les espoirs que le Canadien a, ils n'ont pas le choix de performer. Bien là, ils performent. Joshua Roy, c'est une question de temps avec soit rappelé à Montréal. Là. C'est une question de temps. Oui. Hey, puis Mayou... Il y a 9 points en 4 games dans les games.
T'en as un autre qui s'en vient, mais là, il va falloir qu'il fasse sa place. Peut-être qu'il va être vu d'aller à Laval. Raphaël Harvey-Pinard, deux semaines.
Un petit passage à Laval, je pense que ça va être obligatoire.
Mais dans deux semaines,
côté.
Il est prêt.
Puis là, les Dvorak, là, les Anderson, là, je pense que. Peu importe le contrat, les gars sont payés pareil.
Non.
Faut que tu fasses de la place aux jeunes en ce moment là, qui commencent à progresser si tu veux à passer à la prochaine étape. Puis. Si ça va pas bien d'un gardien, là, que ce soit Montembeau ou ben Primo, là, Dobush, là.
Il est bon, hein?
Va bien,
on l'a vu des matchs en
Il va vraiment bien, là. Donc, tu sais, essaie des choses. De toute façon, tu ne feras pas une série.
Essaie des choses.
Puis prépare les prochaines années avec les espoirs. On est censé être une jeune équipe en progression. Ben, prépare-les, là.
Prions le Seigneur. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. On se retrouve demain.
On ferme le vestiaire. De retour demain, 15h30.
Émission dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière. On connaît tous la réputation de l'étoile Dodge Chrysler de Jonquière. Une équipe de gagnants. Et encore cette année, l'étoile est fière d'être partenaire des Marquis de Jonquière. La qualité et le service dont la réputation n'est plus à faire. Une équipe de vente chevronnée qui prend le temps de servir autant pour la vente que le service après-vente. Une expérience de plus de 30 ans pour nos travailleurs, des vrais passionnés. La gamme complète des autos camions, Dodge, Ram, Jeep, hybride, mini-fourgonnette, VUS, née, la cour est pleine. L'étoile Dodge Jonquière sur le boulevard du Royaume, fier d'être associé au Marquis de Jonquière. L'étoile Dodge Chrysler.